RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
On est là avec Daniel Riolo, avec Jérôme Henrotten, avec Paulo Breitner de retour ce soir pour nous parler de Thomas Tuchel et avec Thomas donc qui n'a pas gagné l'After Academy mais qui grâce au coup monté de ses potes se retrouve avec nous ce soir, supporter rennais. Tiens, à propos de Rennes, je vous avais promis encore quelques réactions que vous n'avez pas pu écouter tout à l'heure. Écoutez tout de suite Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais après le 3-3 tout à l'heure entre Rennes et le Bétis.
Il y a de la frustration. La frustration, elle vient principalement de la manière dont on a pris les buts. Le premier vient sur une relance un peu trop rapide de notre part et une perte de balle dans notre camp alors qu'on menait 2-0 et qu'il y avait sûrement matière à faire autre chose. Et puis les deux suivants sur deux coups de pied arrêtés, où là on manque de concentration, on manque d'attention. Donc c'est frustrant de se faire égaliser à la 90e minute de cette manière-là, mais faut reconnaître que voilà, le Bétis a été très fort en deuxième mi-temps. La sortie d'Isma nous a fait mal aussi en début de deuxième parce que on avait un petit peu moins de possibilités sur les contre-attaques et sur les situations de transition. Donc voilà, c'est un mélange de tous ces sentiments-là. Malgré tout, on a existé dans ce match-là. On a plus qu'existé pendant 30 minutes. Je pense que ça a été un bon match à l'arrivée contre une équipe très forte.
Voilà, donc il est positive, hein, un peu à l'image de.
Oui, mais il est un peu plus lucide.
Hein. À l'image de Ben Arfa tout à l'heure, un peu plus lucide. Alors, écoutez maintenant Clément Grenier. Autre réaction qu'on n'a pas pu entendre tout à l'heure.
Tout est encore à faire. Il faudra aller gagner là-bas pour pouvoir se qualifier. Mais je pense qu'on leur a montré qu'on était capable de rivaliser avec eux et on va préparer le match de la meilleure des manières pour pouvoir aller les mettre en difficulté là-bas.
Là, en revanche, bon, tiens, qu'est-ce que t'en penses, Thomas, toi ?
Frustrant. Honnêtement, frustrant. On va pas se mentir. Le Bétis a dominé. Clairement, ils ont eu la possession.
Certes.
Un peu stérile, je trouve, par moment.
Tiens, parle bien dans le micro.
Pardon, excusez-moi.
Voilà.
Non, j'ai trouvé que c'est très frustrant parce qu'on fait la différence en première mi-temps. On a un penalty un peu inespéré parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas faute. On parvient à marquer 3-1, on fait le plus dur. Alors, on imaginait jamais Rennes mener 3-1 à la mi-temps. Et puis, on a senti les joueurs, en fait, qui ont complètement lâché le match, quoi, concrètement. Enfin, pas lâché le match, mais dans le sens qu'ils ont refusé le jeu. Ils ne voulaient plus construire.
Peut-être que le Bétis était un peu au-dessus, quand même, non?
Le Bétis était au-dessus, évidemment. C'est un jeu qui prône. Bah non, mais c'est frustrant dans le sens où quand on voit le dernier but qu'on prend.
Ouais.
Non, mais quand le dernier but qu'on prend, c'est un but qu'on peut éviter. Ben Sebaini, le ballon, il lui passe entre les jambes. Je veux dire, bon, il y a un moment.
Ouais, enfin, déjà, tu sais qu'avant, il y en a 10 que t'as pas pris.
On est d'accord. Il y a une action, on prend un poteau, je suis d'accord. Il y a plein d'actions, je suis d'accord, mais à partir du moment
Quand tu vois pas le ballon, 80% du temps, c'est quand même compliqué, quoi, d'un moment d'être frustré, hein.
Mais ils ont eu plus de frappes que nous, évidemment. Mais je veux dire, ils ont eu un poteau.
Ils font toutes les, enfin, en fait,
il y a eu beaucoup d'imprécisions.
En fait, tu peux pas être frustré parce que c'est déjà inespéré que t'aies mis 3 buts.
Non, mais le dernier but qu'on prend. Excuse-moi, Jérôme, mais le dernier but qu'on prend, c'est une blague.
Bah moi, je pense que si je suis supporter du Bétis, je suis vraiment frustré parce que je dois gagner tranquille le match.
Plus, mais en fait, la frustration, la frustration des joueurs quand t'entends ce qu'ils disent et des supporters. Mmh. Moi, je t'entends, je comprends. C'est ce but à la 90e minute, mais ce but, il doit arriver avant.
Même si Rennes gagne 3-1, je leur donne très peu de chances de s'en sortir.
Ah oui, non, mais moi,
mais évidemment, après, Rennes s'est arrêté de jouer. Je veux dire, on perd.
Mais c'est pas qu'ils se sont arrêtés de jouer, c'est qu'ils peuvent pas faire plus que ça.
Comment tu veux qu'ils fassent plus que ça? On joue très bien pendant 30 minutes. Au départ,
non, tu joues pas très bien. Tu fais preuve d'une générosité qui est magnifique. Hum? Tu mets de l'entrain et tout ça, mais en fait, après, tu peux plus faire.
Le problème, la frustration, elle vient que pour eux, gagner ce match-là, c'est un trophée.
La seule différence, c'est que le Bétis joue la possession.
Ils ont pas le trophée, quoi.
Mais la seule différence, c'est que le Bétis joue la possession, c'est leur base, alors que Rennes joue le contre.
Ils jouent pas la possession, ils jouent tout mieux, quoi.
Ouais. Mais je suis d'accord, mais c'est la troisième équipe en Espagne qui a le plus de possession, je crois, un truc comme ça.
Ouais, ouais.
Rennes, ça joue que le contre, et en plus de ça, c'est à la mi-temps, tu perds Sarr.
Encore faut-il être fort pour les faire, les phases de transition.
Ah, mais ça, je suis d'accord. Mais quand t'as Sarr que tu perds la mi-temps.
Combien de pourcentage de chances de se qualifier? Daniel a dit 0 tout à l'heure.
Bah non, mais.
Non, t'as lu 10.
Non, 5 le coup de cul.
À 5 le coup de cul.
À moins ça arrive, hein,
Dans l'improbable 3-3, qui partira en 4-4, avec les buts d'extérieur, etc. On n'y croit pas.
0-0, un quart d'heure, un Rennais part tout seul en contre, Sarr, il est fauché, ça donne et pénalty et carton rouge.
Non, mais si tu dois jouer, jouer à ce jeu-là, toujours pareil, Daniel, il m'a fait le jeu. Si tu mets, tu dois mettre tant d'argent sur une équipe, en aucun cas, je mets sur Rennes.
Évidemment,
sur
non, mais absolument.
Ah, le scénar avec Rocco Siffredi qui sonne chez toi?
Ouais.
Ding, ding, Rocco Siffredi.
Non, mais dans le
où
doute,
est votre femme? Alors, vous avez le choix entre... vous devez miser sur une des deux équipes ou sinon votre femme va passer la nuit avec moi. Sur quelle équipe vous misez?
Ouais.
Bah, sur le Bétis.
Non, mais oui, évidemment qu'on va miser sur le Bétis.
Ça dépend en même temps de comment tu t'entends.
Évidemment.
Pour éviter le pire.
Non, mais... non, mais autant...
Tiens, toi, tu fais quoi? Bon. De la maison, ding, ding, Rocco Siffredi. Où est ta copine? Bon, sur quelle équipe tu mises?
Honnêtement.
Tu veux miser sur Bétis?
Non, mais évidemment. On va jouer après. Mais évidemment, enfin, sur principe, après, j'ai envie de miser sur Rennes parce que je suis supporter de Rennes et j'ai pas envie d'être fataliste.
Si, ça peut lui faire plaisir.
Ah, écoute,
mais non, c'est vrai.
Bon, les gars, faisons un petit récapitulatif des résultats. C'est terminé entre le Celtic et Valence, Aurélien Tirsain.
Ouais, c'est terminé. Victoire de Valence 2-0. Donc, c'est pas, l'Écosse ne verra pas de représentant. C'est compliqué, en tout cas, de voir un représentant en huitième de finale. Ça fait 10 ans que c'est pas arrivé. Le Celtic qui n'a rien pu faire face à la maîtrise technique des Espagnols. Victoire 2-0. Donc, avec début de Denis Cheryshev, le Russe, et de Ruben Sobrino. Super match des deux attaquants. Un but, une passe décisive chacun. C'était parfait pour les Espagnols. Victoire 2-0 au Celtic Park.
Et Jordan Olivier de l'Europa Center qui va nous donner les résultats définitifs de la soirée, Jordan.
C'est effectivement terminé sur toutes les pelouses. Gilbert, victoire de Chelsea, 2-0 face à Malmö avec un but notamment de Olivier Giroud. Victoire également de Naples, 3-1, 1-0 pour Villarreal face au Sporting Portugal. 2-2 entre le Shakhtar Donetsk et Francfort. Bruges a battu Salzbourg 2-1. 2-1, c'est également le résultat entre Pilsen et le Dynamo Zagreb.
Ouais, Chelsea c'est 2-1, 2-1 pour la victoire de Chelsea. Merci Jordan, bonne soirée. Revenons à Tourelle, si vous le voulez bien.
Je vais juste revenir, finir un truc que j'ai dit tout à l'heure.
Bien sûr.
Pour juste pour vous donner un exemple, pour toutes les personnes qu'on a interviewées, pas une n'est restée neutre par rapport à Thomas Tourelle. Soit on l'aime, soit on l'adore, soit on le déteste. C'est pas neutre.
Mais c'est curieux cette détestation. En fait, sur quoi elle est basée?
Ouais. Alors, il y a plusieurs hypothèses déjà. Il y a plusieurs hypothèses. Déjà parce qu'il se plaint tout le temps. Et donc,
Vincent, l'a pas vu au PSG.
Ah bah si, il y en a qui se plaignent. Il y en a qui commencent à dire, il arrête pas sur les arbitres. Sur
le mercato, oui, effectivement, depuis un mois, il y a des trucs.
Mais il s'est plaint sur le mercato dans les
cours.
Il s'est expulsé là récemment.
Pardon. Et alors, c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu cette facette-là.
Il y a plusieurs choses. Un, il a récupéré un prénom au bout d'un moment à force de se plaindre. C'est pas que se plaindre aussi par rapport aux arbitres ou par rapport à l'état de la pelouse ou tout ce que tu veux. Alors en Allemagne, il y a eu un ovni télévisuel qui date de 1993, c'était après la réunification, où ça a duré un an, il y a eu 8 épisodes, c'était un personnage qui s'appelait Friedhelm Motzki. Donc ça ne nous dit rien à nous français. Et en fait, c'est une petite série d'un personnage qui est né en RFA, qui n'a pas accepté la réunification qui a lieu au début des années 90, et qui est un peu raciste, qui aime personne, qui veut pas voir un Turc qui traîne dans un truc, dès qu'on veut, il a toujours peur qu'on lui perde sa bagnole, et ceci et cela. Et c'est devenu un gimmick en Allemagne. Ce mec-là, c'est un Motzki. Et Thomas Tuchel, on l'a appelé le Motzki de la nation.
Il a suscité ce genre de choses.
Et encore une fois, cette série télévisuelle qui est pas passante, ça a eu une seule année, il y a eu 8 épisodes, c'est un phénomène, c'est un ovni télévisuel, on t'explique, en gros, le mec, il a toujours peur que la RDA, alors qu'il n'y a plus ça, il sait pas où sont les charges soviétiques, tu vois, c'est toujours un peu comme ça.
Ouais, le râleur de...
Voilà, le râleur de service qui est toujours en le, quoi. Et donc, il a eu ce phénomène-là. L'autre hypothèse c'est véridique, l'autre chose qui m'a été dit, notamment par différents journalistes, et donc c'est encore une fois, c'est les journalistes de grands quotidiens allemands, c'est pas juste quelqu'un qui dit ça comme ça, c'est qu'il y aurait eu quand même un peu une cabale de Dortmund contre Thomas Tuchel pour lui faire comprendre que c'est un petit méchant, qu'on veut pas de lui et ceci et cela, qui explique en fait toutes les stratégies et un peu comment ça s'est fini, malheureusement, où on a expliqué que c'était un peu l'attentat qu'il y a eu en quart de finale de Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco, mais en fait il y avait tellement d'arriérés entre les deux. Aki Watzke, le directeur général de Dortmund, ça s'entendait pas du tout avec Thomas Tuchel. Thomas Tuchel s'entendait pas avec Zorc. Et là, on passe d'un triumvirat, si tu veux, où t'as Klopp, Zorc, Watzke, Klopp et Zorc sont des amis, avec quelqu'un qui arrive, super doué, et qui ne s'adapte pas à Dortmund pour différentes raisons.
Il peut s'entendre avec directeur sportif, parce que là, ça va faire 2-2. depuis Dortmund. Il avait pas bossé, il s'est brouillé avec Sark, et là il arrive et avec Antero, ça a pas mis longtemps, ça clash.
Christian Heidel, il dit, ce mec là, en parlant de Thomas Tuchel, tu lui donnes les clés du camion, tu lui fous la paix. Or, café Dortmund.
Ah, mais il faut bien qu'il y ait un mec qui recrute les mecs et les joueurs, quoi.
Et ça, c'est compliqué, hein.
Non, mais le fait, c'est pas Thomas Tuchel. Il dit Thomas Tuchel, il dit je veux ça. Quand tu commences à lui amener des gars qu'il connaît pas,
qu'il a pas validé.
C'est ce qui s'est passé à
comme
Dortmund.
Comme il s'est passé aussi avec Acosta, là.
Oui, mais c'est, il y a des choses comme ça. À Dortmund, ils ont récupéré un Suédois qui s'appelait Isha, qui savait même pas qui c'était. Thomas Tuchel ne voulait pas de Mario Götze, et qui a été la politique de Dortmund en Allemagne, ça a été de récupérer les anciens qui sont partis à l'étranger, qui n'ont pas réussi. Donc il y a eu Kagawa, il y a eu Götze et Nuri Sahin, que j'ai jamais revu son niveau de 2011 d'ailleurs, jamais revenu.
Schürrle a pas fait partie de
non, il était j'ai un trou de mémoire.
Schürrle est revenu.
Non, Schürrle est revenu, il est revenu en prêt,
très moyen. Ce qui est très intéressant, c'est aussi le passage. Comment il évolue lui en tant que coach. Quand il est à Mayence, on va dire très simplement, c'est un coach qui est encore formateur. Ça lui dérange pas qu'on lui amène des gars du centre de formation. Lorsqu'il est à Dortmund, il n'est plus formateur. Ouais. Il veut la meilleure équipe possible. C'est ce qu'il est en train de faire à Paris d'ailleurs aujourd'hui. Il s'en fout des problèmes potentiels du PSG avec le fair play financier. C'est pas son problème ça. Lui, il veut la meilleure équipe possible pour donner ses idées. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait à Dortmund?
Mais il fait jouer les jeunes quand même. Ils sont là. Bah, tu me diras, il peut pas le banc, il est bien obligé de les prendre.
Pourquoi il fait partir Weah?
Ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'il est super coté au niveau de la formation. Au niveau de la formation en Allemagne. Parce que on a pas le temps d'en parler. J'ai notamment interviewé celui qui a donné ses premiers galons d'entraîneur, donc à Augsbourg, où il s'occupait du centre de formation, où il avait fait un travail titanesque, sauf qu'ils avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, ça s'est pas fait. Et ensuite, il avait été formé en U19 à Stuttgart. Il a fait ce qu'il fait à Mayence, et donc il est très bien. Il est très bien au niveau de la formation, sauf qu'il veut pas être ça. Il veut plus être ça. Il est Dortmund, c'est pas ça. Quand il perd Hummels, Mkhitaryan et Gundogan. Pour lui, c'est une traîtrise qu'a fait le coach. Et d'ailleurs, il y a des polémiques en Allemagne à ce niveau-là, parce que Akivatske, en fait, on a appris sur les 2-3 dernières années qu'il était aussi rémunéré en fonction du résultat du Borussia Dortmund, du résultat financier du Borussia Dortmund. Akivatske, c'est quelqu'un, évidemment, qui est extrêmement et difficilement joignable. Beaucoup de personnes, n'oublions pas, n'ont pas voulu nous parler. Parce qu'ils ne peuvent pas piffrer, disons-le très clairement, Thomas Tuchel. Son ancien président, Strutz, il parle, lui, de trahison complète.
Comment il s'appelle?
Harald Strutz.
Strutz.
Il ne peut pas le supporter. En fait, le problème, moi j'ai énormément de respect pour Akivatske. Akivatske, lui, il était déjà là lorsque Dortmund a failli disparaître, tu sais, dans les limbes des problèmes financiers. Et donc il a tout remonté. C'est un superbe aujourd'hui. C'est Dortmund, on va le dire très clairement, c'est une machine à cash. Mais, je vous pose juste la question, est-ce qu'un club qui vient de réaliser 536 millions d'euros de chiffre d'affaires doit encore être un club formateur ou miser sur des gamins de 18 ans à fort potentiel? Thomas Tuchel, il est pas là. Il veut pas de ça, lui. Il dit, moi, je veux garder Mats Hummels, je veux garder Aubameyang, je veux garder Dembélé.
Alors, une question
Hummels
concrète.
Avec qui, ça s'est quand même très mal fini.
Ouais, alors. Voilà.
Qui a tout fait pour qu'il ne vienne pas au Bayern. Alors,
attends, revenons au PSG. Quand tu vois parce que moi, c'est un truc, je voyais pas ça de Tuchel avant. La calinothérapie avec les Brésiliens, je te prends dans les bras, je te fais des bisous c'est à adapté. Neymar, alors, machin. Ça, c'est quoi? C'est Tuchel ou alors il s'adapte parce qu'on lui a dit ce qu'il fallait qu'il fasse avec ces joueurs-là?
Il y a 2-3 hypothèses. Un, je rappelle que tout le monde m'a dit que c'est un mec super intelligent. Donc l'intelligence, déjà, aussi, c'est à devoir s'adapter.
Oui.
Ce qu'il n'a pas fait forcément à Dortmund. La deuxième chose, c'est notamment l'environnement de Dortmund. Hein. Parce que je reviens à ta question. À Dortmund, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai interrogé un historien qui est aussi supporter historique de Dortmund et qui est très proche aussi de la direction. C'est ce qu'on a dit avec Daniel dans le livre. C'est aussi quand même, méfions-nous de tout ce qu'on vous dit dedans. Parce que, regardez les organigrammes, qui discute avec qui, pourquoi, comment. En gros, c'est un théâtre d'ombre chinoise. Chacun fait un petit peu, dit ce qu'il pense de Tuchel, mais n'oublions jamais ce que font ces personnes dans l'organigramme du football allemand. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire, j'ai voulu déconstruire un peu son image, de savoir ce qui se passait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette personne qu'on a interviewée en Allemagne, il avait été mandaté par le service de communication et du marketing de Dortmund pour accueillir Thomas Tuchel et pour lui expliquer ce que c'est que la roue, ce que c'est que le monde ouvrier de la roue. Ça a duré 10 minutes. Thomas Tuchel, en gros, n'en avait strictement rien à faire de l'histoire. Donc il s'est pas imprégné de l'histoire du club. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui ressort souvent dans tous ces discussions. C'est, il ne nous aime pas, il s'en fiche. Tu vois, il est dans son délire, il est enfin délire entre guillemets, et ça. Donc la câlinothérapie.
Tu crois qu'au PSG, il a essayé de changer un peu par rapport
je
à ça.
Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait, mais je pense que c'est un travail de communication. Avec ou sans le PSG, c'est une autre question. Je pense que son clan, entre guillemets, donc son agent, sa famille, etc., on lui a dit, voilà, là, c'est pas pareil, t'es encore au-dessus de Dortmund, il y a les Brésiliens qui sont là, il y a sûrement le meilleur joueur de la planète ou celui qui va le devenir comme on veut, ça marche pas comme ça. Et comme il est super intelligent, parce que lui, il se met pas à la place des joueurs. Hein. Ce qu'il dit sur les joueurs, c'est assez extraordinaire, il dit, c'est eux les champions, c'est pas moi. Hein. Il dit, moi, mon boulot, c'est de le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il s'exprime. Il dit, on n'est plus chez U15, chez U17, U19, les mecs, ils sont doués. C'est ça qui est vachement intéressant. Et j'ai énormément... Alors moi, j'ai beaucoup rigolé, parce que j'ai regardé quasiment toutes les confs de presse de Thomas Tuchel, et je me suis dit, quel changement. Quel changement par rapport... Mais c'est aussi une forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'il a 73, donc 27... il est en train de devenir un homme mûr, etc., dans tous les sens du terme, et il comprend ça. Mais, ce qui m'a toujours plu, c'est les petits pics qu'il envoie tout le temps. Je me rappelle une fois, alors je sais pas c'est quel journaliste, il y a un journaliste qui s'en est pris dans la tronche et il lui a dit en conférence de presse, mais tu sais là on n'est pas en train de bouffer au resto tous les deux là. Là c'est sérieux là. C'est-à-dire qu'il demande aussi à ses interlocuteurs de se mettre au niveau. Ce qu'on m'a toujours dit en Allemagne chez les journalistes. On va reprendre le cas de Daniel Meuren, donc qui est le journaliste en plus politique, philosophique de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est un mec assez calé intellectuellement. Il disait avec lui, c'était extraordinaire. Parfois, il venait discuter avec nous pendant 1 heure, 2 heures lorsqu'il était à Mayence. Et il refaisait l'histoire du football et il disait, mais c'était comme un séminaire privé. C'était extraordinaire.
Ça, on l'a pas encore vu au PSG. Il a pas encore. Il fait les confs qui sont.
Il s'est chopé quelquefois.
Normal et tout, mais ouais. Il va pas plus loin dans les explications tactiques.
Gagnez maintenant vos places pour Lyon-Barça sur RMC. Envoyez foot par SMS au 732-16.
Et oui, c'est tombé. Donc là, envoyez vite foot, hein, vous l'avez entendu. Vous avez 20 minutes pour gagner vos places pour Lyon-Barça. Non,
mais Daniel, tu vas pas jouer. Toi.
C'est tombé dans l'after. Non, Daniel prend son téléphone. C'est pas
l'autre qui a envoyé SMS, foot déjà.
Vas-y, Paulo. Je
voulais juste que ce même Daniel Meuren m'expliquait que ces séminaires privés pouvaient durer juste 5-10 minutes parce que il y a des jours où il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie de faire quelque chose, entre guillemets, gratuitement pour les journalistes parce qu'il estimait que l'auditoire qu'il avait en face de lui était pas intéressant. Et ça marque. Tout le monde m'a dit ça. C'est pas quelqu'un, tu vois, c'est une énorme différence avec Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, il parle, je vais le dire d'une façon très simple pour que tout le monde comprenne, il parle avec le peuple, quoi. Il va t'expliquer. Klopp, Tuchel, il va dire, c'est pas mon boulot, moi.
Venons-en la différence entre les deux. Ils ont souvent été assimilés parce que c'était les deux.
Ah, parce que les deux, les
nouveaux personnages
aussi.
Du foot allemand. Ouais. Les deux passent à Mayence. Les deux passent à Dortmund. Les deux finissent à l'étranger sans passer par le Bayern. Alors qu'à une époque, le Bayern, ça aspirait tout ce qui se faisait de mieux dans le football allemand. Tu ne pouvais pas ne pas passer au Bayern quand t'étais à un certain niveau. Les deux ont échappé au Bayern. Et en fait, ils sont différents finalement.
Ouais, ils sont plus que différents. Et à la différence de beaucoup de choses qui ont été écrites lors de la double confrontation contre Liverpool, où on a l'impression qu'ils s'aiment bien et ceci et cela, les infos qu'on donne dans le livre, ouais, c'est que c'est pas ça, quoi.
Ils se respectent.
Non mais ils se respectent parce que c'est comme si Mourinho et Guardiola se respectent parce que c'est ils savent très bien qu'ils sont dans le haut
déjà,
du patin.
Ils sont différents parce que quand tu parles aux joueurs par exemple de Liverpool, moi avec qui j'entretiens de bonnes relations, ils te parlent des séances et ce que demande Klopp et ce que fait Thomas Tuchel depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, les séances d'entraînement, les causeries d'avant-match et ce qu'il met en place, ils sont pas à l'opposé mais presque. Alors, il y en a un qui excuse-moi Paulo, mais il y en a un qui tactiquement est un peu beaucoup plus précis, c'est-à-dire Thomas Tuchel, et l'autre qui mise avant tout sur le côté psychologie du joueur, le mettre dans Thomas Tuchel le fait aussi mais différemment, et je pense que ça c'est
dans un esprit combattant guerrier, quoi.
La grosse Klopp. Différence c'est que Klopp il se sert aussi encore plus de ses adjoints si tu veux pour mettre en place des choses, et c'est presque ses adjoints qui décident de comment le match va se dérouler tactiquement, alors que Thomas Tuchel, même s'il a ses adjoints, il les écoute, mais c'est lui qui est maître des événements de ce côté-là.
Il y avait une image, on disait que Klopp, c'était quoi, le hard rock football ?
Oui, il y a ça.
Alors... l'autre, ce serait quoi ? Alors, musique classique ou la pop ?
Oui,
ou
c'est ça. Moi, j'ai utilisé l'opposition, en fait, entre Danton et Robespierre, tu vois, pour les expliquer. Les deux. Et ce qui m'a intéressé, et d'ailleurs, c'est aussi...
Bon, ben, les deux ont fini guillotinés, donc comme ça...
Oui, oui, non, mais oui, c'est très intéressant. C'est la réponse.
C'est qui, Robespierre, alors ?
Ah bah, Robespierre, c'est... Non, c'est Tuchel.
Ah merde.
Danton, c'est le peuple même. C'est une pop star. Comment il s'appelle
Jürgen Klopp.
Thomas Tuchel, c'est un petit peu différent à ce niveau-là. Thomas Tuchel, c'est Karpov pour ceux qui aiment les échecs, quoi. Klopp, c'est Kasparov. Au tennis,
il faut vraiment connaître les échecs. Toi, t'es champion d'échecs.
Tennis, ouais, tennis, ouais, tennis,
ouais, ouais, tennis, c'est le monstre froid.
C'est le monstre froid.
Vas-y,
voilà.
Mais
il y a, alors, deux choses.
Au tennis, quoi.
Daniel, alors, au tennis, Jürgen Klopp, c'est Jimmy Connors, quoi. C'est Jimmy Connors. Ouais. Alors qu'on s'attend.
Et l'autre, c'est McEnroe.
Oui, mais attention, là, c'est subtil.
Non, c'est Lendl.
En fait, c'est Lendl. Historiquement, pour moi, c'est Lendl. Mais en fait, attendez. Il y a une super victoire avec John McEnroe. Je finis avec Jermaine Kero, mais je ne voudrais pas oublier ce que je voulais dire avant, parce que c'était très très important.
Au final, Connors, c'est un sale con, quand même.
Mais il y a beaucoup de sales cons dans le monde du tennis, au passage.
Mais non, mais Connors en particulier.
Oui, oui, oui.
Alors, même dans ce tennis amateur, hein, Daniel.
Et pas pour le tennis.
En 2013, le journal, un journal que j'aime beaucoup, il s'appelle Elf Freund 2, décide de grimer Thomas Tuchel, en John McEnroe. Incompréhension en Allemagne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour simplifier, pour tous les gens, Thomas Tuchel, c'est Ivan Lendl, donc le moine soldat, ou alors c'est Björn Borg, tu vois, Iceman. Et puis de l'autre côté, tu vois, t'as Klopp, etc. T'as Klopp qui est plutôt Jimmy Connors.
Qui est une star en Allemagne, qui fait des pubs et tout.
C'est même plus
pas les pubs en Allemagne.
Très très peu, et en plus, en plus,
le magnétisme. Les entraîneurs qui font des pubs.
C'est le magnétisme.
Imagine chez nous.
Non, mais c'est important, ça veut quand même place dans la
pub.
On dirait même les Géry Nopel.
Il a un côté populaire, il a un côté vachement populaire.
Je vais vous donner deux exemples, s'il vous plaît. Parce que l'histoire de John McEnroe, c'est extraordinaire. Parce que quand tu décryptes. Moi aussi, j'ai énormément changé ma façon de voir comment était Thomas Tuchel. C'est qui, John McEnroe? Lorsqu'il fait le signe de l'empereur, comme ça. Il s'en fiche du public. Lui, c'est un génie. Et il veut le geste parfait. Il joue contre lui-même. Il n'accepte pas la médiocrité. Et Thomas Tuchel, c'est pareil. En tout ce qu'il fait. Et Daniel Meuren me dit, Klopp, c'est l'intelligence du ventre. Tuchel, c'est l'intelligence du cerveau. Les deux sont compatibles, c'est pas la question, c'est deux façons de jouer.
Bien sûr.
Guardiola joue pas contre comme Jürgen Klopp, la position en outrance contre le gegenpressing, enfin
gegenpressing.
Ouais, le contre-pressing, pardon.
Gegenpressing.
C'est pas du tout la même chose. Et je voudrais juste finir là-dessus, à Dortmund, il se passe un truc extraordinaire avec Jürgen Klopp, comment Jürgen Klopp capte mais vraiment tout l'audimat, capte les médias, etc. Un jour, il débarque. C'est un match contre Hambourg. Il a une casquette. Et sur la casquette, c'est marqué Peuleur. Peuleur, personne ne sait c'est quoi ça, Peuleur. Et donc, il y a une journaliste bien connue en Allemagne, qui est de Sky Deutschland, qui s'appelle Jessica Kastrop, qui lui dit, mais c'est quoi votre Peuleur? Et lui, il explique, bon, vous savez, c'est, pour nous, à Dortmund, c'est le joueur du dimanche, quoi. C'est l'amateur qui fait son petit truc, qui va jouer au football comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi? Boum, 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 toutes les casquettes partent. jamais au niveau du marketing, jamais Thomas Tuchel aura cette vision en Allemagne. Thomas Tuchel, pour simplifier, c'est le froid alors que l'autre c'est le chaud. Et il est toujours dans l'ombre de Klopp, parce qu'on parle de Mayence tout à l'heure où il commence à être révélé, mais qu'est-ce qui se passe en même temps? T'as Jürgen Klopp qui est en train de tout péter avec Dortmund. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont toujours...
Comme s'il a un petit train de retard.
Mais ils sont pas tout à fait de la même génération, mais ils sont complètement différents.
Yves est avec nous pour conclure le débat sur Tuchel. Salut Yves. Ah. Oula, tu nous entends?
Oui, je vous entends bien. Vous m'entendez bien?
Ah là, ça y est,
mieux maintenant, oui, mieux.
On t'écoute sur Thomas Tuchel.
Oui, bah écoutez, j'étais en train d'écouter depuis un petit moment tout ce que vous disiez. Et moi, en fait, je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai 41 ans, donc je suis le Paris Saint-Germain depuis 7 ans. Pour moi, ce qui fait différent avec Thomas Tuchel aux autres.
Alors, malheureusement, Yves, la liaison est pas bonne,
Yves,
c'est dommage.
Je rappelle, Yves.
Bon, tant pis. Alors, je rappelle, Polo Breitner, l'énigme Tuchel chez Hugo Sport, et puis l'autre bouquin, Thomas Tuchel, faire grandir Paris chez Marabout. Voilà, Polo, en tout cas, reste avec nous, hein, parce que je sais que tu es aussi un spécialiste du FC Metz.
J'aime beaucoup l'histoire du FC Metz, oui.
Juste pour terminer, il se trouve que...
Dernière question, Daniel. Ouais,
plus un constat. Il y a 2 ans, Hugo Sport sort un livre à la même période, sur Unai Emery, écrit par Romain Molina. Je crois que c'est au moment où PSG met 4-0 au Barça. Et on découvre ce personnage qui est très très intéressant. Derrière, bon, ça s'est mal passé au PSG. qu'est-ce que tu vois comme ça de l'extérieur, comme différence et comme possibilité plus grande pour Tuchel de faire au PSG comme personnalité qui s'adapte mieux à l'environnement?
Attends, moi, avant que tu répondes, je réponds à Daniel. Pareil, là, c'est le ressenti du groupe et du club.
Ouais.
Jamais Unai Emery, même dans les bons résultats, parce qu'il en a eu des bons, il ne faut pas lui retirer.
Il
n'a jamais fait l'unanimité au sein de l'effectif, dans les séances d'entraînement, comment il a capté.
Alors, au-delà de
Thomas Tuchel, d'entrée,
il a réussi à leur parler.
Mais incroyable. Oui, c'est vrai. Les joueurs, ils te disent, les plus grands comme les plus jeunes, à l'entraînement, ils s'éclatent. Ce qui était jamais le cas avec Unai Emery. Donc ça, c'est quand même important,
très important.
Pour un groupe.
Alors, c'est vrai, excusez-vous, on n'a pas le temps, ceux qui voudront le lire dans le livre, il fait jamais les mêmes exercices. Faut pas l'oublier, ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui me semble important, parce que moi, c'est ce que j'appelle le péché originel du PSG, depuis l'arrivée du Qatar, c'est que Thomas Tuchel, il s'inscrit dans une école de pensée, qui est celle de Pep Guardiola et de Johan Cruyff. C'est-à-dire, il le dit très bien, il dit, ces gens-là, ces deux-là, en parlant de Cruyff et Guardiola, ils nous ont légué un héritage qui est extraordinaire dans le monde du football, au niveau de la science du foot. Il dit, mais cet héritage, il est très dur à porter. Et je vous rappelle qu'en début de saison, il avait fait un match très moyen, il avait dit, mais gagner en jouant comme de la merde, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il est toujours hors. Quel est le problème, en tout cas, outre l'objectif du PSG aujourd'hui, c'est toujours de gagner. Et que comment gagne le PSG la Ligue des Champions, à la rigueur? On s'en fiche un petit peu de savoir.
Mais je pense que ça, il s'y adaptera à ça.
Ouais, mais ça, c'est un vrai problème pour moi, parce que le mec, il est vraiment dans ces logiques-là. Donc c'est juste là. Moi, au début, vraiment.
Parce qu'il n'est pas si dogmatique que ça, au fond.
Ouais, enfin, on n'a pas le temps de parler de la pensée latérale et tous les travaux qu'il a fait et comment il développe son football, mais quand même, il est dans la pensée un peu.
En tout cas, c'est vraiment un personnage assez fascinant, quoi.
Ouais.
Et puis on verra ce que ça donne, évidemment, dans les mois qui viennent. Polo reste avec nous, on est allé jusqu'à minuit, FCMS au programme, et puis notre grand jeu de la Ligue des Champions. Et si t'étais entraîneur en finale de Ligue des Champions, plus toute l'actu du jour, bien sûr, bougez pas, l'after, on revient tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
23h32, l'after est là jusqu'à minuit. Je rappelle que Rennes a fait 3-3 face au Betis Séville tout à l'heure en Europa League. Match retour jeudi prochain à 19h. Jérôme Roten, Daniel Riolo et Polo Breitner avec nous ce soir. Et Thomas, donc candidat malheureux à l'After Academy, mais qui est là ce soir malgré tout grâce à la malveillance de ses potes. Voilà.
Vous c'est triste d'être connu comme ça. Hein. le finaliste perdant.
C'est l'essentiel.
Le 8e finaliste.
Vous retrouvez d'ailleurs toute son aventure sur le compte Twitter de l'After. Les gars, notre fameuse opération, notre grande opération équipe type, équipe pipe reprend ce soir. Ah. Et je veux dire que sous la pression de François Pinet...
Je voulais absolument qu'on fasse Metz.
Non, mais on a quand même dans notre rédac un type qui, comment dirais-je, est l'emblème du FC Metz. C'est quand même à souligner, il en parle régulièrement. Équipe type, équipe pipe de Metz, qui mérite quand même, parce que Metz est un club historique du foot français, au même titre que d'autres, et allemand, puisqu'ils ont été effectivement pendant un temps allemand, t'as raison de le préciser, Polo. François Pinet qui est là, évidemment, avec nous ce soir en direct. Salut François.
Salut les gars.
François, c'est ton moment.
Ah bah oui, mais j'attendais ça avec impatience, qu'un Strasbourgeois fasse nous permettre de faire l'équipe type de Metz, c'est merveilleux.
C'est bien la preuve que nous avons une ouverture d'esprit exceptionnelle. Je sais pas si
ça empêchera pas de considérer que l'Alsacien est supérieur au Lorrain.
Oui, dénigre même.
Non, mais...
bah oui,
voyons.
Cette moitié,
tu nous l'as dit. Un peu de respect.
Tu nous l'as dit plus d'une fois.
Vous savez pourquoi les Lorrains ont des grandes oreilles?
Non.
C'est parce que leurs parents, quand ils sont petits, l'élève, ils regardent au-dessus des veaux, ils disent, regarde comme l'Alsace est belle.
Je t'ai dit.
Vous ne connaissiez pas cette blague?
Oh, mais François.
Ce qui est bien, c'est que tu peux la faire dans les deux sens.
C'est vrai que François a des grandes oreilles, en plus.
Bon, François, je savais pas ça.
Attention, parce
qu'est-ce que
j'aimerais qu'on...
Est-ce que l'Alsacien, de manière générale,
mais François,
un peu
ils ont pas tiré sur les oreilles, ils sont tirés sur les
légèrement.
J'aimerais quand même qu'on accueille Hakim, par ailleurs, qui lui aussi est un supporter messin historique, qui depuis à peu près 6 mois me harcèle sur Twitter pour savoir quand est-ce qu'on va faire l'équipe type de Metz. Donc c'est ce soir,
lui aussi
Hakim.
Et
lui aussi a des grandes oreilles.
Salut Hakim.
Bonsoir à tous.
Salut, est-ce Hakim. Que toi aussi tu te sens méprisé par l'Alsacien?
Non, on a plus de victoires au final, donc je me sens pas méprisé.
Ouais, mais t'as pas de palmarès, c'est un peu dommage.
C'est vrai.
Bon, comment ça va venir, palmarès?
On aura quelques Coupes de France qui passent comme ça, ouais, mais jamais de championnat, les gars.
Ah, mais on a deux quand même.
Une Coupe de la Ligue.
Une Coupe de la Ligue aussi, ouais.
Et Coupe de France aussi.
Deux Coupes de France, 84-88. Hein.
Dont une où j'étais au Parc des Princes, contre Sochaux.
Et alors, t'as vu Madar rater le pénalty.
Qui vient de me dire un titre de vice-champion?
C'est moi.
François, mais t'as pas le droit.
Titre de vice-champion.
Non, François, pardon.
Avec les pépés flingueurs.
98.
Non, mais parce que le titre était pour Metz cette année-là. Vous savez, vous en souvenez.
Ah, bah oui. On s'en souvient. On s'en souvient tellement fort que c'est pas Metz qui l'a eu.
François, balance-nous ton équipe type. On va la voir apparaître sur RMC Sport News et on va l'écouter très attentivement sur RMC. Et puis on va voir si Hakim adhère à cette équipe. Vas-y, François.
Donc l'équipe type avec dans les buts Michel Etor.
Bien sûr.
Pas ma génération, mais
ouais.
C'est quand même un gardien légendaire de Metz formé au club. Ensuite en défense, on retrouve les trois vice-champions de France, Kasten Dutch, Rigobert Song en défense centrale, Philippe Gaillot, qui lui aussi a passé énormément de temps à Metz, et puis à arrière droit Patrick Battiston quand même.
Qui a démarré à Metz arrière droit avant de se recentrer, c'est vrai.
Exactement. C'est pour ça que j'ai mis arrière droit. Et puis alors au milieu de terrain, Jocelyn Blanchard, bon, il n'est pas resté très longtemps, mais c'était justement le milieu de terrain de cette équipe de 48. Frédéric Mérieux, qui était là aussi.
Ah oui.
Beau pied gauche.
Très beau joueur.
Et puis Philippe Hichberger, qui lui, alors il a fait toute sa carrière à Metz. Hein. Il a même été entraîneur de Metz, mais il a fait toute sa carrière, donc c'est plus pour saluer la fidélité au club. Et puis évidemment, Robert Pires.
Oui, forcément.
Voilà, peut-être le joyau du FC Metz. Et alors en attaque, il y a Jules Bocandé et Kurbos qui ont gagné quand même les deux Coupes de France.
Donc plutôt un 4-2 alors.
Et Kurbos, c'est le symbole du match contre Barcelone.
Qu'il joue
de l'élimination de Barcelone aussi, Kurbos, c'est ça qui
a... Oui, bien sûr, Kurbos, c'est le match du
alors, contre nous. Excuse-moi,
tu peux faire un 4-4-2, un 4-3-3.
Excuse-moi, je déplore totalement l'absence de Luxonor dans cette équipe.
Ouais.
Et moi de Bernard Gémy.
Ou de Bernard Zénier.
Bernard Zénier, ouais, mais bon, après, c'est
toujours pas.
Moi, je les ai mis.
Zénier, il est meilleur buteur de la Ligue 1 à Metz.
Oui, avec le plus petit total, là, c'est ça?
16, il me semble, un truc comme ça. Zénier a été le meilleur buteur de la D1 avec Metz. Et oui, effectivement, moins de 20 buts sûrs.
Non, mais à quelques exceptions près, c'est du beau boulot.
Mais Battiston, vous l'auriez aimé, Battiston, vous?
Battiston, je pense qu'il le met parce que c'est un joueur historique des Bleus qui a démarré là-bas et qui était arrivé là-bas. Mais effectivement, et après il est plus marquant.
Si tu mets
ailleurs,
la figure emblématique derrière du FC Metz qui a marqué, c'est soit Luxonor, soit Pascal Pierre. Alors après,
oui, Pascal Pierre, on aurait pu le mettre, mais dans ce cas-là,
il ne jouera jamais.
Est-ce que sur le banc, tu mets Carmelo Michich
avec Alain Roche?
18, hein, Zénier, 18.
T'imagines si
18, j'ai dit ça, c'est
pas... Si Pierre avait joué avec Alain Roche, il jamais prenait de but.
Ah bah,
ça, Pierre et Roche ensemble.
Ah bah ouais.
Tu m'étonnes.
Frédéric
Carpinon.
J'adorais Frédéric Carpinon.
Mais tu sais,
il a joué à 3 avec
mon pote.
En tant qu'attaquant de soutien, si je me rappelle
moi,
bien.
Moi, ce qui m'agaçait, c'est qu'il jouait avec les manches trop longues. On voyait pas les mains. Il était bien, mais le coup des manches, c'était
Il y a deux joueurs qui reviennent énormément.
Sinon, Carmelo Michis sur le banc, vous le prenez ou pas?
Ouais. Ah oui.
Avant qu'Hakim prenne la parole.
L'équipe de France, vous connaissez l'anecdote dans l'avion, Carmelo
Michich. Ah bah oui, bien sûr.
Carmelo Michich.
Un mec de l'équipe de France lui dit, Carmelo, il fait chaud, ouvre la fenêtre. Et il appelle l'hôtesse, il dit, la fenêtre s'ouvre pas.
Ah, s'il avait jamais pris l'avion, le pauvre. Je sais pas, moi.
Mais il avait jamais pris l'avion.
Il y a deux joueurs qui reviennent beaucoup sur Direct Studio, qui n'ont pas été cités. C'est le gardien de but André Rey, qui a joué,
international.
Et,
qui doit aller à la Coupe du Monde 78, mais qui se blesse à la main avant d'y aller.
Exactement, Daniel.
Aller. André Rey était un gardien.
Plus de 200 matchs avec Metz, qui est un très bon gardien, donc, dans les années 70. C'est peut-être un peu ancien. Donc,
il est là dans le fameux France-Bulgarie, c'est lui le titulaire des Bleus dans le 3-1 au
Parc. Et on me cite, et je pense que peut-être il aurait eu sa place lui aussi. Le fameux Scorpion. Vous vous souvenez du Scorpion? François Calderaro.
Ah oui,
qui vient à Paris.
Mais lui aussi fait meilleur. Attends, il fait pas meilleur buteur.
Hein. Oui, il doit faire meilleur buteur parce qu'il vient à Paris.
Oui, voilà.
Il vient à Paris pour ça parce qu'il marque beaucoup de buts.
Deuxième meilleur buteur. Mais...
C'est le mec qu'on va toujours chanter dans les douches. Tu vois les sujets quand on était gosse, Calderaro, il chantait dans les douches.
Ouais, Calderaro, attends, il chantait beaucoup. Ouais.
Calderaro, Hinsberger, il devait s'amuser. Hein. Il devait faire un concert. Hinsberger, la guitare.
Bon alors, Hakim, est-ce que t'es d'accord avec l'équipe de François?
Moi, j'ai quelques modifs. Donc, j'ai fait un 4-3-3. Donc dans les buts, Etor, à gauche, Sonor, Captain Dutch, Song, Battiston, en milieu, Mérieux, Pires, Rohr.
Ah oui, Rohr, ouais.
Veigné en attaque, Brown, Nico Brown, meilleur buteur du club, et Cyril Pouget.
Eh, c'est pas mal, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal.
Il y a Poupou qui est là aussi, non, qui a fini à Paris aussi. On a récupéré les Messins, nous, en fait, à chaque fois.
Ah. Ouais, c'est vrai,
les Messins. Ah, son équipe à Hakim, franchement.
Pas bon. Que des réussites.
Non, mais Pouget, c'est pas possible.
Pourquoi?
Pouget, il est, alors, déjà, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est qu'on pense que Pouget, il était de cette équipe-là qui a terminé deuxième derrière Lens. Mais en fait, il s'en va avant. Il s'en va en 96. Donc, déjà, il a pas fait la belle épopée du FC Metz. Et quand même, Turbo, oui, Bocandé,
parce qu'il vient, au PSG, il est de l'équipe du PSG qui met 3-0 à Liverpool au Parc, là.
Ah, ouais,
il
ouais,
marque même, ouais. Alors qu'il a galéré quasi toute la saison et tout.
Ouais, après, il a plus marqué l'histoire de Marseille.
Hakim, est-ce que t'as une équipe pipe?
Non, on a dit l'équipe quiche.
Ah, l'équipe quiche, ouais, on l'a rebaptisé bon, l'équipe quiche.
La quiche, ouais. Ouais.
Normal.
Donc, au but, Trivino, qui a fait deux matchs à Metz.
Putain, Trivino.
Ah oui, d'accord. Bon, ouais, c'est plutôt Guignon, Trivino, en l'occurrence.
Bah, Trivino, il a un titre,
hein. Équipe type de Guignon, ah ouais, par contre.
Il a un titre.
Et équipe pipe de Metz,
ah, c'est vrai, équipe pipe, équipe type à Guignon. Ah
ouais. Ensuite, en défense.
Osman, zéro match. Valscheid, un match. Visevac, qui, nous a pas servi à grand chose. Eric Cubillier.
Ah, Eric Cubillier, oui, il a marqué les esprits aussi après Metz, PSG. Hein. Eric Cubillier.
Eric Cubillier est passé à Metz.
C'était après Paris, ça.
Cubillier de Rosé.
Ensuite, au milieu, t'as mis qui?
Avec l'histoire qu'il a, c'est pas Odegaard, bien. Odegaard, Malouda, Krivets. En attaque, Padovano, Bombarada et Anne.
Il y a des mecs, ils ont joué parce que je me souviens même pas de leur nom, là.
Ah ouais, là,
n'oubliez pas que dans le 11 quiche, il faut de l'oseille un peu, hein.
Ouais. Il y a Omotoyossi aussi, rappelez-vous, Omotoyossi,
c'est surtout,
Zevlakov, c'est comme ça qu'il s'appelait, oui.
Zevlakov.
Ouais, un russe qui
là, il y a pas d'oseille dans ton équipe, hein.
Il y a eu du 20B aussi dans les équipes, dans l'équipe chip qui a été,
qui était plus sur, gardien de Lille, ou de Nancy, mais c'est vrai que de Metz.
Bah, tu passais de l'équipe type de Nancy à l'équipe pipe de Metz.
Bah ouais.
Fallait quand même le faire.
C'est vraiment une vraie quiche, ce 20B.
François, est-ce que t'as un autre joueur dans l'équipe pipe là que t'as envie de citer?
Bah, on aurait pu faire trois équipes pipe, hein, honnêtement, mais
il y a toi tout de suite.
Exemple, quelle lucidité sur ton club, François.
C'est incroyable ça de dénigrer les footeux comme ça.
Non mais c'est
ça.
Plus une déception que vraiment une pipe. Ouais. C'est Michele Padovano.
Ah
celui-là oui.
C'est quand il est arrivé, c'était le mec de la Juve qui est arrivé. Ouais. Il s'est blessé
voilà,
direct.
Il s'est blessé.
Ah oui, ouais. Ah, il y avait une grosse attente autour de Padovano. Je l'adorais quand il était à la Juve, un remplaçant de feu.
Mais ouais, il fait les ligaments.
C'est pas l'année où il le change avec Blanchard, non?
Ah, il y a pas un truc avec Blanchard, effectivement.
Bah oui, parce que Blanchard, il a fini à la Juve.
Mais d'ailleurs, bah, non, Blanchard, c'est une expression à la Juve. Quand un transfert raté, c'est Blanchard.
C'est génial. En plus, il n'avait pas signé joueur, ils sont dégueulasses.
Ça, c'était la connexion Carlo Molinari, ça.
Parce qu'il n'avait pas signé pour jouer, Blanchard.
Non, Molinari, oui, mais Molinari était grand supporter du Torino, d'où le maillot Grenat, d'ailleurs.
Oui.
Lui, il était supporter du Torino.
Non, mais pour montrer quand même que le FC Metz est un grand club, c'est que Padovano, même s'il s'est blessé, eh ben, il a quand même été payé, il a été conservé par Metz alors qu'il n'avait pas encore signé son contrat. Donc c'est Molinari qui a tenu à...
J'ai raté un épisode où Albert Cartier a même pas été...
Cité, non.
Ouais, après j'ai évoqué Albert Cartier, c'est vrai.
Bon. Bah, depuis les montres à...
Pousse-père.
Cartier, tu l'aurais fait d'office.
C'est quoi cette histoire de montre?
Tu te rappelles pas, les mecs étaient partis en Tchétchénie, on leur avait fait faire une Cartier.
Et Cartier, il était dans
la... Ça a fait un scandale, cette histoire. Il y avait plein de joueurs français qui s'étaient invités par...
Ah oui, pour, projet sportif.
Bon, non, il s'appelait Cartier, quand même.
Excusez-moi, mais dans l'équipe qui, je vous en oubliais un arrière-gauche, plutôt récent, qui était en pour parler avec Jackie et Michel pendant un moment, c'est Benoît Souékoto.
Lui, il rentre aussi dans l'équipe quiche. Hein.
Lui, il était pas mal, hein. Dans le style, il est revenu en grand sauveur, grand sauveur moyen, quand même.
Juste, vous savez qu'en fait, Zeni, le record a été battu depuis? Personne s'en souvient, mais...
Un buteur qui a été...
Et pourtant, oui.
Titi avec moi
15 buts.
Hein
2007.
2007 ? Le meilleur buteur de la Ligue 1 ?
C'est qui ?
2007.
De Metz ?
Non, Paris.
Non, meilleur buteur de la Ligue 1 en 2007.
Paoletta.
Ah, c'est vrai, ouais. 15 buts seulement. Waouh, c'était vraiment l'époque pauvre du
foot.
De
quoi 15 buts
15 buts, Paoletta,
meilleur buteur de la saison, mais 15 buts, Paoletta, oui.
C'était le plus petit total. Mais en même temps, c'était Rotten le passeur. Comment tu peux être étonné?
Bah, sur les 15, excuse-moi, sur les 15 buts, lui en avoir donné 14, parce que j'ai des stats sous les yeux. Donc, après, si moi je jouais avec des quiches, j'avais des messins avec moi.
Hein. Jérôme, il a compris à 40 ans que son vrai poste était numéro 6. Ça, le vrai truc.
À Bastia?
À 45 ans, non? Quel âge?
Bon, ton plus beau but, tu l'as mis contre Metz, toi aussi, d'ailleurs. C'est pas contre Metz, ton plus beau but?
Ouais, j'en ai mis une.
Non, mais le but ginolesque, c'est contre Metz.
Ah, ouais, ouais. Bah, le plus beau but au Parc des Princes sur les dernières années. Oui,
Hakim, il y a un joueur qu'on a pas cité, que tu voulais rajouter, enfin, un truc, qu'on a oublié pour être complet, Hakim?
Non. Bah, après, Cartier, c'était difficile de mettre pour sortir quelqu'un d'autre. Enfin, c'est.
Ouais.
Bon. Bah, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, salut, les gars.
Et entraîneur, on vous avait pas dit entraîneur, tiens.
Ah, bah, Joël Muller.
Non? Joël Muller, c'est le plan bleu.
Martial Husson ou Joël Muller?
Ouais, Joël Muller.
Oh, Joël Muller,
c'est. Ou Kaspar Zak aussi. C'est lui qui les entraîne quand ils gagnent la première Coupe de France en 84, ouais. Si je me souviens bien. François, c'est lui, non, en 84?
Bonne question.
Non, ça doit être Martial Husson.
Tiens, les gars, on a petit cadeau pour vous, François et Hakim, afin que vous dormiez bien cette nuit. C'est aussi un cadeau pour Christophe Marichez, qui aurait pu être dans l'équipe quiche, parce qu'il a pris ça. Ouais, c'est...
Oh, c'est énorme but de Jérôme Rotten. C'est David Duvalin qui est de retour au Parc des Princes.
Voilà, c'était contre Metz, contre Paris. Bon, c'est comme ça. Hein.
Franchement, je conseille à tous les auditeurs d'aller voir ce but. Et là, pour de bon, ils ne couperont plus jamais la parole. Ils respecteront.
Merci François, à demain.
À demain, salut les gars.
À
salut
demain François. Dans Ici c'est Willy. Merci Hakim.
De rien, je vous remercie.
Salut Hakim.
À très bientôt, salut. Allez, dans quelques instants, le reste de l'actu du jour. Et puis on va s'amuser à être, nous aussi, des entraîneurs en finale de Ligue des Champions. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Paulo Breitner et Thomas ce soir avec nous. Thomas, supporter rennais, donc. Et... Pourquoi?
La boîte à portable.
Ah oui, la boîte à portable. C'est pour,
et pour la précision, quoi, parce qu'il faut toujours être précis. Polo,
Tu sais que Polo, maintenant, on est à la télé, donc on est sur ton portable.
Ah ouais, voilà. La Coupe de France 84, c'est bien Kaspar Zak, l'entraîneur du FC Metz à ce moment-là.
Et le nombre de passes décisives de Jérôme Rotten l'année où Paulo Tabar 15 buts, c'est 8.
Ah, c'est
en 38 matchs, c'est pas beaucoup.
De quoi?
Oui, 2006-2007, 8 passes décisives.
Ouais, mais c'est que en championnat, ça.
Bon, alors, notre cas de jeu. Le poste avait très marché sur les coups francs. Je vous répète le principe. Vous retrouvez ça sur le compte Twitter de l'After. Si t'étais entraîneur en finale de la Ligue des Champions, quel gardien tu choisis à la dernière minute quand l'avant-centre adverse part seul au but? Bon, quel que soit l'avant-centre, hein, ça n'a pas d'importance. Quel gardien, on va faire un tour de table. Quel gardien vous choisissez, les gars, face à l'attaquant adverse qui vient seul au but à la dernière minute de la finale de Ligue des Champions 0-0, vous êtes l'entraîneur. Bien sûr, vos propositions sont les bienvenues sur Direct Studio, sur le hashtag RMC Live. J'en ai déjà reçu plein. Hein. Alors, évidemment, on va pas remonter au gardien des années 40, au Lev Yashin et compagnie, que globalement, les gens qui nous écoutent, à 99% n'ont pas vu jouer. voilà, nous compris.
Bah, c'est surtout qu'il était membre... tu le sais, hein.
De quoi, Lev Yashin?
Ouais.
Quoi, membre de quoi? Bah, du Parti communiste?
Bah non, pire que ça.
Membre du KGB?
Bah oui, eh oui. Ouais.
Bah de toute façon, les mecs qui pouvaient sortir du pays et voyager autant, en général...
Tout à fait.
C'est des KGB ou...
en face, l'araignée noire, elle en prend un coup, quoi, quand même. Mmh. Ouais. Même si le système était comme ça.
Bah oui. Bon, alors, est-ce qu'il a le choix?
Qui commence?
Jérôme.
Pourquoi moi?
Bon, bah Daniel,
vous allez me descendre.
Franchement, c'est compliqué. Donc le mec part seul pour l'arrêter. Tu veux dire, dans le football actuel, ouais, je trouve qu'il y a un gardien qui, dans ce genre de 1 contre 1, est très fort. Bon, alors, évidemment, il est blessé là et tout, mais Neuer est très fort là-dessus. Et De Gea aussi, sur les 1 contre 1. Il a sa position de corps et tout, j'aime bien. Et après, dans le passé, là, franchement, je sais pas, quoi. Il y a tellement de bons gardiens.
Oh, Simone Rovera qui pénètre sur le...
Gigi Buffon.
Merci, Simone. Ciao, Simone.
Il a failli tout casser dans le studio.
Il a failli tomber, surtout. Il a failli tomber.
Oh, bon, bah, voilà. Bon, bah, de toute façon, en même temps, je suis pas trop étonné, hein, pour Simone.
Ouais.
Donc, tu restes sur De Réa.
Dans aujourd'hui, ouais, Neuer de Réa, Neuer de, il y a quelques années quand il était au top, quoi. Sur les 1 contre 1 comme ça, je pense qu'il peut faire peur.
Sur Direct Studio, tout. On me dit Harald Schumacher. T'es sûr que le mec rentre pas dans la surface?
Ah bah il te coupe la tête avant. Ouais, écoute,
c'est une sorte de sortie, c'est pas très valable. Mais c'est pas toujours sifflé.
Dans le football d'avant, là il y a pas de nom. Je sais pas, dans le football français, là, Lama était très fort dans ces situations-là, mais je sais pas. Je vais me concentrer sur le foot actuel.
Thomas, voilà. T'as une idée?
J'aurais été tenté de dire Koubek, mais bon, je vais peut-être me raviser un petit peu.
C'est une bonne blague.
Non, je rejoins Daniel sur Derea et Neuer. Une préférence pour Derea. Bon, Neuer est assez blessé en ce moment et joue moins. Derea, juste, moi, le dernier match que j'ai vu de lui, alors, à Manchester, il a été, il a pris deux missiles dans la tête, il pouvait rien faire concrètement. Et je trouve qu'il sort très bien sur Mbappé.
Sur ses actions.
Il se couche pas trop, et puis il a la main ferme. Et moi, il y a un match vraiment qui m'a surpris, c'était il y a un mois de ça, face à Tottenham. Manchester va gagner à Tottenham, on se demande encore comment, mais il fait un match exceptionnel, le gars est un mur. Il arrête tout. Voilà, il arrête tout, il est
sorti. Attention, on parle de la situation
Donc, si le mec arrive seul face à un attaquant, il faut penser à des gardiens qui foutent un peu les jetons, qui sont donc des grosses masses.
L'aspect psychologique.
C'est pour ça que hier, Oliver Kahn, Peter Schmeichel correspondent à ce genre de gardiens qui vont un peu foutre les jetons, parce que tu sais que tu peux te faire découper si tu rates
ton rythme. Mister Polo.
Malheureusement, Manuel Neuer est vraiment en perte de vitesse en ce moment, et pas que pour ses blessures.
Mais tu pourrais dire Neuer de sa grande époque.
Eh ben, moi, je vais dire un ancien de l'ancien. Thomas Nkono.
Je l'aurais pas mis sur ces sorties là.
J'adore ce gardien.
Je l'aurais mis dans les sorties aériennes, tout ce que tu veux. J'adorais sa façon de s'imposer dans les airs.
Mais c'est un peu comme Bernard Lama.
Oui.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a oublié le gardien camerounais de Metz. Là, comment il s'appelait celui-là? Qui a joué longtemps à Metz?
Songo.
Jacques Songo.
Jacques Songo.
Jacques Songo.
Qu'on aurait pu citer tout à l'heure. Donc Thomas Nkono.
Ouais.
Très bien. Jérôme.
J'ai envie de dire Marichèse parce qu'on l'a, c'est quand même une référence. Franchement, aujourd'hui, moi, il y a deux gardiens et la nationalité, elle parle parce que les Brésiliens sont servis avec les deux gardiens qu'ils ont actuellement. Le gardien de Liverpool et le gardien de Manchester City.
Ah oui, Alisson Becker.
Ils ont vraiment
Ederson
pour l'avoir. Alors Alisson Becker aussi, c'est un très bon gardien, mais plus Ederson, je l'ai commenté beaucoup de fois. Et dans ces situations-là, et ça lui arrive parce qu'il joue tellement haut Manchester City que des fois ils prennent des contres et que dans le 1 contre 1, je le trouve impérial. Déjà, il prend de la place et c'est important quand tu te retrouves face à un gardien comme ça. Moi, je me souviens de l'expérience que j'ai de joueur. Ça m'est pas arrivé 10 000 fois d'arriver seul face au gardien, mais même quand il y a un défenseur devant, quand t'as un gardien qui a une envergure énorme, c'est plus compliqué parce que tu forces ta frappe. Donc je vais te dire Ederson.
Ouais, je vous lis quelques propositions.
Si on parle des 5-10 dernières années, il y a pas mieux que Neuer.
Je parle par rapport à la forme du moment aujourd'hui.
Je vous lis quelques propositions. Alors on me dit c'est Waddle qui me dit gardien actuel, n'oubliez pas Courtois. Koussikoussa me dit Jean-Louis Tour sans hésitation, avec son excès de poids ça bloque les angles. Mika nous dit Oliver Kahn, et puis Manu nous dit en gardien je prends Fernando, c'est le gardien de mon immeuble, je peux vous dire qu'il y a personne qui rentre. Vous oubliez quand même
Fernando, il doit être portugais lui.
Vous oubliez le plus grand
Vandersar.
José Luis.
José
Luis. L'aspect psychologique, mon coco.
Ouais, mais lui, c'est pour tirer un coup franc.
Viens en face de José Luis en 1 contre 1.
Moi, il est venu.
Chilavert, messieurs.
Écoute, moi, il est venu face à moi, il a pris un doublé.
L'aspect psychologique, là, c'est pas l'aspect technique.
Écoute, t'as mis un doublé à Chilavert.
Premier doublé en Ligue 1, c'est contre Strasbourg.
Ouais, il était pas en grande forme ce jour-là, mais.
Et avec 3 en plus, t'imagines.
Mais je voudrais juste faire une parenthèse, tu vois, la baisse de niveau de Manuel Neuer. Ça fait partie de ces choses qui me font très mal, pas parce que c'est lui, mais c'est comme ça, les grands champions. Parce que Manuel Neuer, il a vraiment bougé le poste de gardien, il l'a changé. C'est vraiment quelque chose qu'on se rendra compte plus tard, etc. Mais d'ailleurs, tout.
Donc, tu veux dire que Neuer, il est dépassé?
Bah, ça commence à.
Il y a de la relève quand même en Allemagne.
Oui.
Mais le style Neuer.
Mais on se rend pas compte.
Parce qu'il avait inventé un style en fait.
Quand on regarde pas toutes les semaines, par exemple la Bundesliga ou des trucs comme ça, le mec, il a été pendant 4 ans, 5 ans, mais enfin.
Ah non, mais Neuer, pour moi, c'est
le mec qui est toujours là.
Pour moi, il y a Buffon, Neuer,
avec cette éternelle limite de pas bloquer les ballons.
Ouais, non, mais parce que non, c'est pas vrai, une limite.
Tu sais ce que c'est que ça?
Polo, dis pas c'est pas vrai, c'est la vérité.
Mais il y a plus besoin maintenant. Tu sais ce que c'est?
Ah bon?
En 2009. Mais
comment tu peux dire des conneries comme ça?
Est-ce que tu sais que la première fois que je t'ai rencontré?
Oui.
La première chose.
On a parlé de ça.
Tu m'as...
Ben voilà, ben je, tu vois, 10 ans
c'est
plus tard,
gimmick,
je te le redis.
C'est
mais non, mais c'est la vérité.
Non, mais c'est vrai.
Bah, regarde, Jérôme Rotten, a pas d'expérience
dans le football. Moi, j'adore Neuer. Je trouve qu'il a révolutionné ce poste.
Moi, j'y vois plein de qualités par ailleurs.
Mais non, mais.
Quel menteur.
De quoi? Que je l'aime bien?
Oui.
Ben oui. Non, mais détrompe-toi, j'adore le foot allemand.
Menteur.
Oui, ben oui, parce que les origines, tout ça. Mais non, il aime pas. Voilà.
Et c'est pour lui, ils veulent garder.
Mais Neuer, je trouve incroyable. Et c'est vrai que dans ces sorties-là, de façon, l'envers, la façon de sortir, c'est lui qui a inventé ça et d'attirer les ballons. Mais après, c'est vrai que pour les bloquer, non, lui, il s'en fout. Il a pas envie de les bloquer.
Allez, je vous en donne juste quelques-uns. On m'a envoyé du Olmeta, du Higuita, du Prudhomme, Prudhomme plutôt, et du Casillas qu'on n'a pas cité.
Voilà. Ouais, Casillas aussi. Hein.
C'est fini pour ce soir. Oh, bah, Thomas, merci d'être venu. Hein.
Merci à vous, messieurs, de m'avoir reçu.
Tu diras à tes potes que c'est des beaux enfoirés.
Bah, je les embrasse quand même. Voilà. Hein, j'embrasse mes potes de Garf, mes Las Vegas, je les embrasse comme il faut.
Polo, à bientôt.
Merci,
c'était un plaisir de te recevoir.
Salut,
Jérôme, Daniel, à plus. Demain soir, l'After sera là. Dès la fin de la Ligue 1, plusieurs matchs hein, demain avec les reprogrammations. Là, je suis un peu perdu d'ailleurs, moi. Je sais plus ce que c'est demain soir.
Bah, Strasbourg a perdu, non, hier, non?
Ouais, Strasbourg joue à Caen d'ailleurs.
Il y a Lyon demain.
Lyon joue
à Caen? Ouais. Lyon-Guingamp, 21h demain soir.
Voilà. Vous allez reperdre.
Et Nîmes-Dijon, 19h. Voilà, le programme. À demain soir dans l'After.
Allez, à tous.
RMC Football Show, l'After Foot.